Ici, dans le rétro, l'intégrale, Déborah Grunewald.
Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. J'espère que vous allez bien dans le rétro. Si vous nous découvrez, moi c'est Déborah Grunewald et je vous propose un voyage dans le temps, un parcours de vie, celui de nos invités. Des invités qu'on découvre avec leurs questionnements, leurs apprentissages, leur joie de vivre. On se rend compte parfois qu'il y a des bouts de leur vie qui nous font penser à la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes avec une artiste pétillante et chaleureuse, rayonnante et joyeuse, reine du disco, icône des yéyés. Mon invité aujourd'hui, c'est Sheila, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Sheila.
Bonjour.
Alors l'émission...
J'ai bien fait de venir.
Ah bah, vous me direz ça à la fin de l'émission.
D'accord.
L'émission s'appelle Dans le rétro, on va jeter un œil dans le passé. Vous, votre nouvel album s'appelle À l'avenir. Vous
Justement.
Restez quand même avec nous, oui. Parce que sinon, Sheila, on est dans la merde.
Non, je vais rester, mais c'est vrai que moi je ne regarde pas derrière. Je regarde devant, c'est pour ça que l'album s'appelle À l'avenir.
On peut quand même regarder un
mais
petit
on,
peu parce
on
que...
On va regarder un petit peu, mais on parlera aussi du futur.
Parce que sinon, c'est la merde.
Ah, oh,
oh. Si on regarde dans le passé, c'est un regard dans le rétro. Si on regarde vers le futur, c'est le pare-brise. On va faire gaffe de ne pas se le prendre quand même.
Non, mais on ne se prend pas. Puis alors, je ne vous citerai pas la marque, mais il répare en 30 secondes.
À l'avenir, ce sont donc 12 titres. Il y a de la spiritualité, de l'humanité, un œil sur notre société et de l'amour.
Bon gré, mal gré, les aléas. Ça nous tombe dessus. Apprenez à réparer votre cœur vous-même. On sait jamais, ça peut servir. Apprenez à réparer votre cœur vous-même. À chaque fois qu'il se déchire.
Ce dernier extrait, c'est Dilemme. Vous chantez « Apprenez à réparer votre cœur vous-même ». Comment ça se répare un cœur ?
Ça se répare avec déjà avec de l'espérance, avec se dire qu'il faut toujours croire à demain et que c'est jamais fini. Parce que malheureusement, dans une vie, la mienne étant longue, je peux vous dire qu'il se brise souvent les cœurs pour des milliards de raisons, pour une perte, pour un amour qui s'en va, enfin il y a plein de raisons d'avoir le cœur brisé. Mais si on n'apprend pas à se le réparer, il ne faut pas compter sur les autres, je crois.
On dit que le temps répare les cœurs aussi.
Vous savez, je constate un truc, c'est qu'en réalité, le temps fait qu'on efface les mauvais souvenirs. Enfin, c'est ce qui s'efface le plus vite. Et au bout du compte, on se rend compte que quand même, on ne garde que les bons moments de la vie. Et c'est pour ça que ça devient agréable. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut faire de notre vie une aventure.
Sheila, sur Dilemme, vous évoquez aussi les souvenirs qu'il reste d'un amour. Est-ce qu'on garde justement les lettres, les photos, les affaires d'un ex parce que ça fait partie de notre histoire ou est-ce qu'on les crame ? Façon de parler, évidemment.
Ça dépend
enfin,
comment...
on peut les cramer quand même.
Ouais, quand même, mais ça dépend comment on s'est quitté. C'est toujours pareil. Si vous vous quittez gentiment et tout, si c'est la guerre, c'est la guerre. J'ai eu la guerre. J'ai pas cramé parce que ça sert à rien puis que j'aime pas cramer les trucs. Je les ai pas gardés.
Ah, vous les avez pas gardés. Vous ne gardez que quand les histoires
Alors après,
se sont terminées.
Pour moi, non, mais attendez, pour moi, c'est compliqué. Étant donné que je suis un personnage public, si vous voyez ce que je veux dire, des fois, on me ressort des trucs où je dis, oh, mais non, mais pourquoi? Bah pourquoi ? Parce que voilà, mon histoire elle est partout dans la presse depuis que j'ai l'âge de 16 ans, donc c'est un peu difficile pour moi d'oublier.
Ouais, mais vous gardez pas tout ce qu'il y a dans la presse, mais gardez peut-être des choses beaucoup plus intimes, justement des lettres, des photos, des choses comme ça, qu'on met dans les boîtes à souvenirs.
Ouais, on garde des vieux trucs, mais bon.
Vous gardez les choses, non? Vous gardez pas?
Ah, moi, je garde tout. Moi, je garde mes robes, je garde mes...
Vos
moi,
vestes qui datent de 1984 que vous avez ressorties aujourd'hui en 2025.
Absolument, juste pour vous faire bisser, vous faire tic-tic-tic. Mais oui, bien sûr. Non, moi, je veux pas vous mentir, je garde des trucs. Par exemple, moi, j'ai les cahiers d'école de mon fils, j'ai les miens, mais moi, je tiens ça de ma grand-mère. Moi, j'ai mon cahier de naissance, par exemple, pour vous dire.
Il y a plus grand chose à garder maintenant, puisque tout est informatisé, tout est sur les téléphones.
Mais moi, je suis
dans les ordinateurs.
C'est quoi, je suis contre ? C'est terrible parce que c'est vrai que maintenant on fait des photos avec nos téléphones, mais vous savez quoi, c'est tellement sympa de sortir des albums de photos. Je trouve ça génial. Et en réalité, on les regarde jamais nos photos qui sont dans nos téléphones.
Ouais.
En plus, on perd les téléphones, on perd les photos. Enfin, c'est la guerre.
Et puis on
moi,
peut pas
je
les
suis
transmettre.
Pour... Non, mais c'est ça. Mais moi, je suis pour ce qui nous reste. Moi, je suis pour la vieille malle. Alors, ça fait un peu ancien combattant, mais je m'en fous. Je suis pour la vieille malle qu'on ouvre et on retrouve nos vinyles, nos photos d'enfants, nos souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, tout est dans un écran et en réalité, l'intériorité, il n'y a plus les odeurs, il n'y a plus le toucher. Et vous savez, moi, ce que je dis aux jeunes, méfiez-vous parce que c'est bien, c'est formidable de télécharger. C'est génial. Mais quand vous aurez dans 20 ans ou 30 ans que vous allez déménager et que vous allez dire, bon, faut que je trie. Eh ben, vous n'avez rien à trier puisqu'il vous reste rien.
Bah oui.
Alors que quand vous ouvrez, vous retrouvez, moi, j'ai retrouvé des trucs de ma grand-mère, de ma mère. Et ça fait tellement du bien. Ça vous plonge dans
votre... Et puis,
on
peut moins transmettre aussi. C'est-à-dire que les boîtes à souvenirs, elles peuvent se transmettre de génération en génération.
Absolument.
On peut ouvrir des cartons et retrouver des photos en noir et blanc des années 1900.
Absolument. Ouais, bah, moi, j'ai des trucs de mon grand-père de la guerre.
Vous voyez, on regarde dans le rétro et on parle du passé. Hein. Chez là, il y a aussi sur l'album le titre Courir.
Car l'amour court les rues, il court et long.
Sérieusement, l'amour court les rues ou pas ?
Alors en ce moment, je ne sais pas si l'amour est au rendez-vous, hein, on va dire. Mais comme je suis positive, l'amour, il court quand même toujours. Après, voilà, à nous d'en faire quelque chose de joli ou pas. C'est vrai qu'on croit en ce moment, on est plus dans un truc de tension. N'empêchera qu'il y aura toujours des amoureux. Moi, ce qui me manque, c'est un peu les bancs publics pour aller voir qui se bécotent. Parce que moi, j'ai connu ces chansons-là et je dois vous dire que c'était quand même bien sympa.
Vous, Sheila, aux dernières nouvelles, vous êtes célibataire. Ça me fait marrer parce qu'un jour, vous avez dit « Tout le monde essaye de me caser ». Je pense que plein de célibataires vivent la même chose. Pourquoi, à votre avis, quand on est célibataire, les gens cherchent à nous caser ?
Parce que c'est pas normal d'être célibataire. Et on a encore du mal dans cette société aujourd'hui. Dieu sait qu'on a fait beaucoup de progrès. Mais on a encore du mal à se dire qu'on peut une femme, parce que attention, les hommes, c'est pas pareil. Ils font comme ils veulent. Hein. Mais les filles, je vais vous dire un truc. C'est compliqué. On est toujours, oh, la pauvre, elle est toute seule. Mais vous savez quoi, c'est bien de temps en temps d'être seule. Alors, ça veut pas dire qu'on est tout le temps seul. Hein. Soyons sérieux. Bon.
Ouais, donc, vous êtes célibataire, mais vous êtes pas tout le temps seule, quoi.
Bah, heureusement.
Ah bah, je sais
partage
pas, moi.
Quand même. Je partage ma solitude avec d'autres gens qui sont seuls.
Chez là, dans votre album, vous parlez d'amour, mais vous parlez aussi de sujets sociétaux.
Qu'avec ici, tout peut arriver aussi, mon avec ici, mon. Avec des si, mais la ligne tu l'as, je t'aimais. La tête haute, racée, ne jamais courber les chines.
Ce titre-là, c'est racé. Vous y évoquez les mots qui tuent, les mots prison, les balles perdues. Ne jamais courber l'échine face à ces mots en noir et blanc. Des mots qui blessent, on en a tous lu ou entendu. Quelle importance vous donnez à ces mots ?
Mais vous savez, les mots, c'est plus dangereux des fois que... Alors, maintenant, il y a les coups de couteau, ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que les mots, c'est très compliqué parce que souvent, les mots restent. Surtout quand c'est écrit d'ailleurs, c'est très compliqué. Non, j'ai voulu évoquer cette chanson parce que moi je suis contre le racisme, l'antisémitisme et tout ça, mais je défends cette cause depuis les années 70. Aujourd'hui, j'ai travaillé cette chanson, j'ai demandé à Rachel Kahn parce que l'idée c'est l'idée de son bouquin qui s'appelle Racé, que j'ai adoré. J'ai demandé à Rachel pour la première fois parce qu'elle n'écrit pas de chansons. Je lui ai demandé de bien vouloir écrire d'après son livre que je défends aussi, de bien vouloir m'écrire un texte, ce qu'elle a fait. Et de dessus, on a demandé à Eric Hazard d'écrire une musique. Et je trouve que c'est important aujourd'hui, dans notre époque, qui est quand même très, très ballottée par des tas de choses qui, au bout du compte, ne nous mèneront pas dans un endroit, je ne sais pas où ça va nous mener. En tous les cas, on ne va pas y aller. On ne va pas y aller parce que moi, je pense qu'on est fait pour vivre ensemble.
Alors, on ne va pas aller où alors ? Bah, ça va pas péter, vous pensez que ça va pas péter ?
Je crois pas, moi. Ouais. Moi, je crois pas parce que, si vous voulez, on met des tensions partout. Mais tout le monde met des tensions. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la mode. C'est très dans le pipolage. C'est très dans tout ce genre de trucs. Parce que ça fait bien de parler.
Mais quand je parle des mots, justement, ces mots, ces balles perdues, ces mots prison que vous reprenez dans la chanson, c'est parce que, justement, ces mots, on les retrouve notamment sur les réseaux sociaux et tout ça, ça attise la haine.
Pourquoi vous croyez qu'on en est là ?
À cause de ça ?
Bah, bien sûr. Bien sûr, parce que ce qui est grave, c'est pas les réseaux sociaux en soi. Ce qui est grave, c'est que, en réalité, tout le monde écrit n'importe quoi ou tout le monde est en méchanceté parce que c'est pas pour voir des choses gentilles, hein. Tout le monde balance des saloperies, mais caché derrière un prête-nom. Et c'est ça le problème. Le jour où on vous sera obligé de signer de votre propre nom, vous verrez que ça va se calmer beaucoup. Parce que les gens balancent. Mais dans la presse, c'était pareil à l'époque.
Ouais, mais même s'ils balancent, ça veut dire que le fond est mauvais, qu'il y a une aigreur, une haine, une rage.
Ouais, mais est-ce qu'ils savent exactement pourquoi ils sont en colère ? Je suis pas sûre.
Vous faites gaffe à ça, vous, ça vous touche ou pas? Parce que vous devez en avoir des commentaires.
Ah non, non, mais attendez, mais moi, vous savez, moi, j'ai
ouais, l'âge
que j'ai. Après, ce que j'ai vécu quand j'avais 18 ans, moi, maintenant, les avions, vous savez, les caravanes passent et voilà. Parce que franchement, ça m'atteint pas, parce qu'on va me dire, j'aime cette chanson, t'es mal habillée.
Ah, mais c'est pas forcément, j'aime.
Gueule,
non, mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas forcément, j'aime ta chanson ou je l'aime
non,
pas.
Mais...
C'est,
regarde non, mais après...
la gueule de conne,
mais c'est ça, moi, c'est plus ça maintenant. Ouais, à son âge, il faut qu'elle reste chez elle. Enfin bon. Je veux dire, c'est que de l'amabilité. C'est très, très agréable. Mais vous savez quoi, je les emmerde. C'est ça le truc. Donc après, c'est un choix. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. En principe, je ne lis pas. Puis quand je lis, puis quand ça me dérange, je mets un procès. Puis voilà, paf.
Ouais.
Parce qu'il faut juste pas se laisser faire, quoi.
Sheila, vous dites, dans mes concerts, il y a 4 générations dans la salle, des hétéros, des homos, des enfants capables de chanter une de mes chansons parce qu'ils l'ont apprise à l'école. Au moins, pendant 2 heures, ils oublient la violence du monde, ils kiffent, ils font le vide. Vous pensez que le monde qu'on leur laisse, il est moche?
Ah bah, il est compliqué, on peut pas dire le contraire. Moi, quand j'avais leur âge, c'était juste l'après-guerre, donc c'était compliqué, mais c'était compliqué parce qu'il y avait rien et que tout le monde taffait, mais tout le monde travaillait. Aujourd'hui, on est un peu dans une société où on a... Je pense aussi que ça vient beaucoup du Covid, mais on a pris l'habitude de se la péter douce et on pense d'abord aux vacances avant de penser au travail. Moi, je pense que le travail, c'est la vie.
On va vous dire que vous avez eu la chance de faire un travail passionnant, agréable.
Mais eh bien, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé plus que n'importe qui, je peux vous le dire. Ne croyez pas, parce que vous voyez un spectacle. Le spectacle, il est prêt, il est fini. Mais je peux vous dire qu'avant, c'est compliqué, sincèrement. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de courbatures, de machin. On s'en fout, moi, je me plains pas, j'adore. Je dis non, je reste chez moi. Bon. Mais c'est pas ça. Non, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que on a oublié le plaisir de se dire, oh, je vais au taf. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends qu'il y ait des gens qui font des choses qu'ils n'aiment pas. Mais vous savez, moi, je pars d'un principe. Ta vie, tu te la fais. Moi, je pars d'un principe. Quand tu veux, tu peux. Tu peux te trouver un boulot que tu vas aimer. Franchement, je réfléchis à la société. Moi, là, je suis une grand-mère. Voilà. Moi, je devrais me taire, mais je ne me tais pas. Voilà. Mais les gamins qui sont en perdition, qui font des conneries. Bon, ils font des conneries, voilà. Parce qu'ils ont été mal éduqués, parce que peu importe, ils ont fait une connerie. Moi, je pense que la prison, ça sert à rien. Par contre, si on envoyait faire un an de, je sais par exemple, c'est quelqu'un qui fait des cloches, des métiers manuels, qui ne connaissent absolument pas.
C'est ce qui est en prison, parfois. Ils font des ateliers manuels aussi, quand même.
Mais c'est ça,
pour
voilà.
La réinsertion.
Mais des choses, mais pour des gamins. Les gamins, on va pas, voilà. Ils sont, de toute façon, ils sont tous mineurs quand ils ont fait une connerie, donc ils vont nulle part. Ce qui est pas une solution non plus. Non, mais je pense que si on les mettait en stage pendant un an dans des trucs où il y a des gens qui bossent, des jeunes qui bossent, des bûcherons, je veux dire n'importe quoi, hein. Mais des trucs où ils vont apprendre quelque chose, je suis sûre que sur la moitié des gamins, ils vont découvrir une passion. C'est juste parce qu'ils savent pas.
Faut leur ouvrir le champ des possibles.
Mais voilà. Rien n'est fermé. À vous de choisir le coin où vous voulez aller.
Ici, dans le rétro.
Allez, c'est parti, on démarre notre voyage dans le temps. Nous voici en région parisienne, à Créteil, au 30 rue Paul-François Havé. On va ouvrir cette porte. Annie Chancel vient de naître.
Ça grince.
Oui, on a l'impression que c'est la porte, c'est le bébé en fait.
Non mais c'est pas ça, mais c'est parce que c'est juste après la guerre là pour le coup. C'est chez ma grand-mère.
Exactement, chez votre grand-mère. Nous sommes chez vos grands-parents. Fille unique, est-ce qu'un frère ou une sœur, ça vous a manqué à certains moments de votre vie?
Oui, absolument. Moi j'aurais aimé avoir un frère ou une sœur, mais pas être toute seule. Mais c'est bien parce que ça apprend la vie différemment et je me suis créé ma propre famille et mes frères et mes sœurs. Oh, ça serait le bonheur.
Votre maman, Micheline, travaille avec votre père, André. D'abord, lui, il est boucher et puis il travaille sur les marchés. Très jeune, vous les accompagnez. Vous dites que ça a été l'école du courage.
L'école de la vie. L'école de la vie, parce que vous savez, les marchés, c'est pas une journée complète.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en l'espace de 3-4 heures, vous devez faire votre recette de la journée. Moi, je vendais des gâteaux et des bonbons avec mes parents. Faire manger un gâteau ou une brioche à quelqu'un qui a pas faim, c'est compliqué. Donc,
vous
il faut avoir du
bagou.
Non, faut du bagou. Ah oui. Non,
vous aviez votre technique.
Moi,
on vous entend attirer le client. Joie des enfants, tranquillité des parents, 4 brioches pour 100 francs. Et... Oui, bah oui, parce que Sheila, vous avez connu les anciens francs.
Bon,
vous
ça
avez
va, connu c'est pas la peine, c'est pas la
les
peine,
francs,
hein.
Et vous avez connu les euros. Là, vous vous dites, je suis super mal élevée et insultante.
Je me dis, why? Why? Pourquoi?
Et 100 francs à l'époque, c'était 92 centimes d'euros. Vaut mieux pas comparer les prix de l'époque à ceux d'aujourd'hui.
Non, hein. Non, mais c'est ça. Est-ce que je faisais une émission l'autre jour et je disais un truc, ce qui n'existe absolument plus aujourd'hui, c'est que moi, à mon époque, sur l'étal de mes parents, il y avait les gâteaux cassés et les pas cassés. Parce que les gens qui pouvaient pas s'acheter les gâteaux bien préparés, bien droits, bah avec pas un petit bout qui manque, et ben ça coûtait 150 francs à l'époque en francs, en ancien franc.
Oui, en ancien franc.
Et les cassés, ça coûtait 125 seulement.
Mais si, aujourd'hui, dans certaines boulangeries, on a les petites rondelles de pain un peu dures qu'on peut utiliser pour les toasts. Certaines boulangeries le font pour...
Pour utiliser, pas perdre le
pour
pain.
Pour pas perdre le pain, ouais.
Bah oui, parce que moi j'ai appris ça aussi. On ne jette pas le pain.
Bah ouais.
Aujourd'hui...
Sheila, vous êtes une petite de français moyen, comme vous l'avez chanté.
Tandis que moi, qui ne suis rien, une petite fille de français moyen, j'apprends chaque jour.
Sur ce titre, vous vous comparez aux filles de grandes familles, de bourgeoises. Est-ce qu'il y a un moment dans votre enfance où vous avez envié ceux qui avaient une vie plus facile que la vôtre ?
Pas du tout.
Jamais, jamais ?
Non, parce que d'abord, je ne connaissais pas ce milieu. Moi, la première fois que j'ai pris un avion, j'avais 14 ans. Et j'ai pris un briguet de pont. Alors évidemment, ça fait un peu ancien combattant. Hein.
C'est quoi ?
Ben,
c'est
voilà,
long.
C'est... c'est pas un avion de guerre, mais presque. Hein. C'est avec deux étages et tout, il n'y avait pas de fauteuil. Enfin bon, c'était les premiers avions et on voyageait pas comme on voyage aujourd'hui. Donc, mais moi non, je suis pas envieuse, je m'en fous.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous n'avez jamais été rongée par la jalousie ou par l'envie, par exemple ?
Non,
à aucun moment.
Non, il y a un moment qui m'a gavée quand même quand j'avais 13, 14, 15 ans. Moi, vous savez, j'ai passé mes vacances, mes week-ends et tout, aller chez ma grand-mère pour faire les nœuds au paquet de crottes en chocolat, peser les petits œufs de Pâques, les trucs comme ça. Et j'avoue qu'il y a des moments, j'avais qu'une envie, c'est d'aller avec mes copines à la patinoire ou aller me balader ou au cinéma. Mais moi, je l'ai pas fait. Moi, je vais vous dire sincèrement, je pense que l'école du travail, en tous les cas, celle des marchés, a été ma meilleure école. Déjà, vous êtes en contact avec les gens. Vous êtes obligé d'être aimable, même si vous en avez pas envie, même s'il y a quelqu'un qui vous plaît pas. Vous êtes obligé d'essayer de lui vendre quelque chose. Donc voilà. Et puis, c'est une vie de famille, c'est une vie de... Un peu comme le métier qu'on fait de saltimbanque. On rentre, on décharge les camions, on recharge les camions. Enfin, on est tout le temps en mouvement. Et moi, j'aime cette vie. J'aime la vie de nomade.
Sheila, je vous parlais de la jalousie, justement, de l'envie. Il y a une phrase qui dit « L'envie, c'est la douleur de voir quelqu'un posséder ce que nous désirons. » Dans votre vie, inversement, vous avez dû être confronté à des personnes qui vous ont jalousé, vous. Est-ce qu'on peut s'en protéger de ça ?
Alors, je pense qu'on attise toujours la jalousie. Déjà, en France, on n'aime pas le succès. Quel qu'il soit, je ne parle même pas pour les chanteurs, je parle en général, quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a une nouvelle voiture. Moi, j'ai été habituée à dire, oh, elle est belle. Vous savez, j'ai un souvenir qui me revient là. Je faisais les marchés à Maison Alfort, devant l'école vétérinaire. J'étais avec ma maman derrière et je sors. Et qu'est-ce que je vois ? En garée en face devant l'école vétérinaire, une Alfa Romeo blanche intérieur rouge. J'appelle ma mère. Je dis à ma mère, viens voir, regarde maman cette voiture, tu la vois bien. Eh ben dis-toi un truc, un jour je l'aurai neuve ou d'occasion, mais je l'aurai, je l'ai eu. Alors après j'ai attendu, mais c'est pas grave, faut avoir des rêves, on s'en fout.
Oui, mais
quand,
c'est pas
comment.
Dans la mentalité de tous. Effectivement, vous le disiez, quand quelqu'un réussit, eh bien autour il y a des gens jaloux.
Mais
et
c'est ça, le voisin qui
mal.
A une belle voiture, on va aller lui rayer. C'est comme ça, ben ça s'appelle.
Mais vous vous protégez de ces gens-là justement? Vous c'est... devez attiser ce.
Ben,
ce,
j'attise
ce
ça,
de...
mais bon, moi aussi, je suis entraînée maintenant, donc.
En fait, vous êtes blindée, quoi.
Ah, ben, il vaut mieux 60 ans après, si je le suis pas, c'est foutu.
Blindée
pour
de
moi.
Thunes, hein, je voulais dire.
Ben,
non, je déconne.
Alors... Ben, j'aurais bien aimé. J'aurais... Alors, je suis pas dans. J'ai un toit sur la tête, hein, mais.
Non, mais vous êtes blindée. Vous êtes blindée.
Ben, je suis blindée.
Vous êtes prête
ouais,
à...
je suis blindée parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? La connerie humaine, elle existera toujours. Après, il y a des gens intelligents, des gens qui ne comprennent pas, des gens qui sont jaloux, des gens qui sont. Voilà, c'est comme ça. On ne va pas refaire la société. Il faut essayer de fréquenter les bons.
J'ai jamais rien vu d'aussi marrant que de voir voler un éléphant.
Sur l'écran, Dumbo l'éléphant, votre maman vous a emmené pour la première fois au cinéma. Au lieu de regarder le film, vous êtes là dans l'allée en train de danser sur les musiques. Le dimanche, vous allez danser avec votre petite boîte de tutu. Vous adorez vous maquiller, vous coiffer, danser devant les gens, être artiste. C'était votre destinée.
Ah, je pense que oui, vraiment. Moi, la grande chance de ma vie, c'est d'avoir eu des parents dans les années 60, donc années où il n'y avait rien, les filles se maquillaient pas, on mettait pas de pantalon. Enfin, c'est très, très... Ça fait, on a l'impression que c'était hier, mais en réalité, ça a tellement évolué.
Bah oui,
la
vous avez 80 ans.
Que... Mais ça va, mauvaise teigne. J'ai 8.0.
8.0, ah. Oui.
Bon,
Alors. Référence à la tournée. Non, mais je vous ai interrompu, du coup.
Oui, ben voilà, tu vois, c'est pas bien. Alors, je m'en fous, j'ai pas perdu le fil.
Ah, bien.
Donc, non, pour te dire, mais c'est vrai qu'à l'époque, tout était fermé, on ne faisait rien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé aller. Alors, j'ai toujours attention. Moi, j'étais une fille qui écoutait, qui rentrait à l'heure, qui travaillait à l'école. Mais par contre, ils m'ont laissé ma chance.
Mais est-ce que c'était écrit, tout ça?
Oui.
Est-ce que vous croyez au destin, à la destinée?
Oui.
Est-ce que vous dites que c'est écrit?
Ouais. Après, ta destinée, tu te l'as fait. Mais ce que je veux dire, je pense que je suis née pour faire ça. Moi, je me suis jamais vue ou dans un bureau ou je peux pas. Je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. La preuve, enfant, j'ai commencé par la danse classique à 5 ans. J'ai fait du piano, j'ai fait du trapèze, j'ai fait du cheval. Je me suis jamais vue autrement que comme ça.
Vous faites encore du trapèze, par exemple, aujourd'hui?
Alors du trapèze, peut-être. J'ai pas tenté depuis longtemps, non. La dernière fois que j'ai fait un truc, j'étais suspendue à des fils et je faisais des tourniquets en avant, en arrière, etc. Il y a quoi, 5-6 ans? Depuis, j'ai pas
vous
essayé.
Vous pétez la forme, c'est dingue.
Mais oui, je vais bien. Je
c'est
sais
génial.
Ça en énerve plus un, mais...
Pourquoi ça en énerverait plus
parce
un?
Parce que les gens ne comprennent pas, mais moi non plus, je comprends pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, vous voyez, je me lève le matin, tout le monde dit, oh là là, j'ai mal. Moi, je me lève le matin, je ne peux pas vous dire que j'ai pas mal quelque part. Mais je m'en fous, moi, j'ai un truc à faire. J'ai pas le temps d'être malade, j'ai pas le temps d'avoir mal, il faut qu'on avance. Le but, c'est d'avancer. D'avoir des projets, de regarder devant, d'oublier le derrière. Alors je me dis toujours, quand je serai vieille, je trierai. Vous voyez, donc vous avez bien vu, je ne réalise pas l'histoire.
Allez, téléportation, on y retourne. Sheila, nous sommes rue de Pathé, dans le 13e arrondissement de Paris. Derrière ces murs, l'école communale. Vous êtes assise là, vous kiffez, vous aimez l'école, vous aimez vos profs. Vous pensez qu'il y a une recette pour aimer l'école, pour faire aimer l'école aux enfants?
Alors, je ne sais pas, je pense que l'école a quand même changé aujourd'hui, puis il y a des problèmes qui n'existaient pas à notre époque, genre le voile, pas le voile, le masque, tout ça, c'était très loin. Nous, on jouait au ballon prisonnier dans la cour, donc il n'y avait pas ce genre de problème. En plus, moi, je suis de l'époque où il n'y avait pas encore les écoles mixtes.
Ah,
il y
oui.
avait l'école de garçons, l'école de filles, et quand on sortait, on était contents, on disait « Ah, il y a un garçon qui m'a regardé !» Puis c'est tout, quoi. Non, mais moi, j'ai aimé l'école. Moi, j'ai aimé apprendre, j'ai aimé la géographie, j'ai aimé la science nat, j'ai aimé mes profs, j'ai aimé... Ouais. C'est une belle époque. Après, si je suis honnête avec vous...
Vous êtes honnête avec nous depuis le début de cette
Bien
émission.
Bien sûr. J'avais déjà monté des groupes, moi. Par exemple, moi, vous voyez, les Spice Girls, c'est moi qui les ai créés au départ.
Mais bien sûr.
C'est-à-dire que moi, dans mon école, j'avais... Mais arrêtez de rire, je vous explique un truc vachement important. J'avais monté un groupe de 5 filles avec une petite arabe, une petite noire, 2 petites françaises et puis je sais plus qu'une chinoise, peut-être, je sais pas. Un truc très mélangé. On était toutes pareilles, nous chantions. Alors, chanson très à la mode, Étoile des Neiges en voix divisée, bien sûr.
Ah non,
arrêtez
alors, moi,
de étoile, rire en régie.
Non mais Étoile des Neiges, moi j'imagine Michel Blanc, Étoile des Neiges.
Oui, il y a ça, mais avant il y a eu le premier groupe des Spice Girls.
D'accord. Qui était dans les Chélettes.
Qui les Chélettes. Alors non, non. Les Chancelottes.
Ah oui, parce que c'était Chancel encore à l'époque, Annie Chancel.
Bien sûr, oui.
Donc c'était pas les Chélettes, pardon.
Non, pas encore.
Sheila, destination 1961, rue d'Arcueil à Paris.
Ah.
Ah.
Ouais. C'était un peu ça, c'est un sens du tempo très marqué.
Vous êtes en pleine répétition avec le groupe Les Guitar Brothers. Débarque alors le producteur Claude Carrère qui recherche... Alors,
on rectifie.
Ah, je me suis plantée.
C'est-à-dire que t'as été trop vite. Parce que moi,
c'est
quand
le golfe
connu...
de Roux.
Mais pas du tout,
merde.
C'était très bien. Jusque-là, t'étais très bien. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que quand ce monsieur est entré, il n'était pas producteur.
Alors, vous me laissez rattraper ou pas?
Oui.
Je crois qu'en fait, il avait été contacté par Henri, le boss du golfe de Rouault. C'est pas ça? Il n'y a pas un truc comme ça?
Il y a un
ça.
Truc du golfe de Rouault, mais
bon,
surtout, il était chanteur, auteur.
Mais oui, mais c'est ce que j'allais dire.
Ah ben non, t'as dit, il est producteur.
Non, mais j'allais le dire. Non, c'est pas vrai. Bon, donc, bon, débarque alors Claude Carrère, qui recherche une chanteuse. J'ai bon ou pas?
C'est bon.
Bon, ça va. Oui. C'est le boss donc du golfe de Rouault qui, lui, a parlé de vous. J'ai bon?
Oui.
Ok, donc Golf Drouot, c'est où ont commencé les chaussettes noires, Johnny Hallyday. Après des cessez de voix au studio de la DMS, vous signez votre premier contrat. On est le 15 septembre 1962, Champagne. Non, pas Champagne parce que vous êtes encore mineur. Ce sont vos parents qui signent. Vous avez 16 ans. Un mois plus tard, vous faites votre première télé. J'ai bon ?
Jolie petite Bella, jolie petite Bella.
Ah, t'es bonne, hein, putain. La DMS en plus.
Ouf.
François Dantan. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens.
Bon, alors on parlait de l'école tout à l'heure. Pourquoi je vous passe cet extrait à la télé? C'est premier passage télé. Et juste après, la directrice de l'école dit que vous êtes une dévergondée. Elle dit même à votre mère, vous l'emmenez dans le milieu de la prostitution.
Oui, absolument. Bah, c'était, attends, excuse-moi, ça ne s'appelait même pas le show business, hein, mais ce milieu-là, tu ne te rends pas compte.
Mais c'est... être libre à l'époque, c'était être dévergondée?
Ah bah être libre à l'époque, c'est déjà votre fille, Madame Chancel, elle a 16 ans. Mais vous vous rendez compte où vous l'emmenez? C'est terrible, parce que là-bas, attention, il se passe des choses terribles. Je vous assure.
Mais qu'est-ce qu'elle disait, votre mère?
Mais ma mère, elle a dit, non mais ma fille veut faire ça, je vais lui donner sa chance. Moi, ma mère, elle a été mais ouverte surtout. Après, attention, hein, ma mère, elle m'a toujours guidée. À chaque fois que je faisais une télé, j'appelais ma maman. Maman, comment t'as trouvé? T'étais très mauvaise, très mal éclairée, j'ai pas aimé comment t'étais habillée. Donc elle m'a toujours remise d'équerre, ma mère. Mais non, mais ma mère, c'est génial. C'est, voilà. Vous oubliez pas un truc. Alors ça fait un peu ancien combattant, mais avec mes 8.0, je fais
vos 80 ans.
Ah, mais tu m'énerves. Tu m'énerves. Cette fille m'énerve. Tu n'as pas le droit, j'ai 55 ans. 60, j'accorde, pas plus.
Dans la tête.
Je suis arrivée là et c'est tout. Et voilà, et viens faire mon spectacle pendant 2 heures, tu vas voir.
Mais c'est marrant parce que je me permets de vous vanner, parce que justement, vous vivez les choses avec une telle facilité. Qu'on peut se... Je ne me permettrai pas avec n'importe quel invité, par exemple. Hein.
Alors, tu peux me citer des noms.
Je
te
dirai
non,
pas.
Tu vas te dire un truc. Ça va être compliqué parce qu'ils sont plus nombreux maintenant. Sans déconner. Je n'aurais pas dit. Non, mais je rigole. Mais ce qui fait peur, c'est que je me sens très seule par moment. Non, mais ça, c'est un autre sujet.
Non, mais ça, c'est vrai. Non,
on
mais
en parlera après, parce que ça, sinon, ça va être triste. Je ne veux pas qu'on soit triste dans cette émission.
On parlait de femmes libres, en tout cas, perçues comme des dévergondées à l'époque. Pour vous, aujourd'hui, Sheila, c'est quoi être une femme libre?
La plus grande des richesses aujourd'hui, pour moi, c'est la liberté. C'est quoi la liberté? Les filles, arrêtez de vous prendre la tête. Sincèrement, croyez-en quelqu'un qui a l'habitude et qui a le passé qui fait que je peux vous expliquer. Si vous voulez être libre, ce n'est pas le sujet. Le sujet, gagner votre vie. Je pense que si vous êtes capable, quand vous vivez avec un homme, de prendre votre valise en lui disant, tu sais quoi, je prends ma valise et je m'en vais, car je peux me démerder toute seule, et ben c'est ça la liberté. Parce que moi j'ai connu l'époque où les femmes avaient tant par semaine et elles demandaient au mari si elles avaient le droit de s'acheter une paire de bas. Excusez-moi, mesdemoiselles. Donc aujourd'hui, nous sommes très très libres. Nous avons la chance d'avoir une Simone Veil qui a libéré notre corps. Nous avons la chance d'avoir quand même la possibilité de parler, de la ramener. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès contraire, qui est de dire que tous les hommes sont des cons. C'est faux. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y a aussi des femmes qui ne se respectent pas vraiment non plus, mais simplement je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on est fait pour vivre ensemble.
Ça veut dire que la liberté, elle passe par la liberté financière alors?
Bah, je pense que tu sais, quand tu peux quand même prendre, dire, bon, mais tu sais quoi, salut, c'est quand même déjà un gros avantage, parce qu'ils ont tellement eu l'habitude, ces messieurs, de tenir la bourse et de dire aux demoiselles, taisez-vous, c'est moi qui gère. Tu sais, je vais même te dire la vérité. Moi, j'ai une femme libre depuis très longtemps, parce que moi, je gagne ma vie depuis que je suis gamine. Ça fait peur aux mecs. Les mecs ont peur des femmes libres. Les mecs ont peur d'une femme déjà qui peut avoir une situation supérieure à la leur. Parce que ça ne fait pas partie de l'histoire. Mais ça va venir.
Ça évolue.
Petit à petit, ça va venir et tout. Mais il ne faut pas non plus cracher dans la soupe, quoi. Ils sont quand même gentils, nos mecs, de temps en temps.
Sheila, dans les années 60, ce sont ces tubes.
L'âme est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Vous, les copains, je ne vous oublierai jamais.
Ah, j'en peux plus.
Non mais je sais que vous n'en pouvez plus, restez avec moi.
Non mais je reste là, mais n'empêche que ces chansons-là, alors je dis j'en peux plus parce que je suis honnête, j'en peux plus. Mais quand j'entends les rois mages, qui a quand même pris un léger coup de vieux. Heureusement, avec Hashtag et Eric Hazard, on fait une autre version et on se marre et on rigole. C'est pour ça que je m'amuse encore à les chanter. Mais il faut quand même reconnaître qu'avec ces grâce à ces chansons-là, moi, ma carrière, elle a viré complètement et je suis encore là aujourd'hui. Ouais. C'est grâce à des chansons comme ça que je fais 63 ans de carrière.
Les Gondoles à Venise, c'était en duo avec Ringo le 13 février 73. Vous vous mariez à Paris dans le 13e arrondissement.
Mes chers amis, nous sommes obligés, bien sûr, d'accepter les conséquences de ce que vous n'êtes pas démarié comme tout le monde.
Voulez-vous reculer,
le curé vous demande de reculer, si vous voulez, de 2 mètres.
Non, mais c'est horrible,
Annie,
ce jeu.
Voulez-vous prendre comme épouse pour l'aimer fidèlement tout au long de votre vie?
Oui,
monsieur. Non, c'est horrible.
C'est un truc de fou.
Non, c'est horrible.
Le monde qu'il y avait,
c'est le festival de Cannes, c'est-à-dire c'est n'importe quoi.
Sheila, vous vouliez un mariage tranquille, discret.
Mais c'est pour ça qu'on n'a pas fait, on n'a pas publié de banc, rien.
Mais non, mais ce qui veut dire en gros, parce que je me rappelle vous avoir entendu dire qu'on vous avait volé cette journée.
Bien sûr.
Il y a eu une fuite, il y a eu une balance.
Bah, devinez qui c'est la balance.
Je sais pas.
Ah bah, de
Claude. Claude
Allez-y, crachez-le.
Votre producteur de l'époque.
Eh ben oui, parce que lui, il a appelé Anne-Marie Pesson à l'époque pour lui dire, c'est aujourd'hui qu'elle se marie. Donc l'autre, elle a annoncé sur RTL, place des Gobelins bloquée, des flics partout. Pour arriver à la place des Gobelins où il y avait la mairie, on ne pouvait pas passer. À l'époque, je vous fais rigoler, ça fait un peu ancien combattant, je m'en fous. À l'époque, il y avait des flics avec les képis et le bâton blanc.
Dans des calèches, non?
Je vous merde. Ah, mais c'est pas possible.
Non, mais
celle-là. Non, il y avait les képis et les bâtons blancs. Donc, on a pris un flic qui était à l'angle d'une rue. On lui a demandé de monter sur la voiture. Il agitait son bâton pour dire « Laissez passer, ce sont les mariés ». Donc, on est arrivé là-dedans. On est rentré dans la mairie en se disant « On va être sauvés ».
Non,
ils avaient laissé rentrer tout le monde. Non, je vous jure, c'est un
mais
enfer.
Mais donc, balance, fuite.
Ah, mais c'est
traîtrise. Est-ce que faire confiance, c'est difficile pour vous?
Alors justement, non, c'est ça mon problème. C'est que j'ai tendance à faire trop confiance, voyez.
Encore maintenant?
Ah ben, je crois que c'est inné chez moi. Je me fais engueuler tout le temps. Tout le monde dit, arrête de trouver tout le monde gentil, tout le monde n'est pas gentil. Et c'est vrai. Et même, voyez, avec le temps, je me dis... Quand même, avec le temps, ils vont réfléchir, quand même. Carrère, pour l'instant, c'était que lui, je venais quand même. À un moment, vu l'âge qu'il a, il va quand même bien comprendre qu'il a fait des conneries et me dire, bon, bah, c'est vrai, je me suis un peu gouré. Pas du tout, il est parti dans la tombe comme ça. Donc, il y brûle, en enfer.
Mais donc, vous n'êtes pas capable de déceler quelqu'un qui ne mérite pas votre confiance?
Alors, je fais un peu plus attention maintenant, quand même, mais bon.
Vous êtes trop gentil.
Je suis un peu con-con.
Non, faut pas dire con-con quand on parle de gentillesse. Ah non, ça m'énerve.
Oui, oui, mais bon.
C'est bien d'être gentil.
Ouais, mais d'ailleurs, c'est quoi le film qui a gagné? Ah bah c'est Karim Leclou. Mais qu'il est beau celui-là. Il le porte sur lui en plus. Et c'est un film sur, je l'ai pas vu, hein, je suis honnête, mais c'est sur les gentils. Moi je trouve que c'est bien d'avoir des gentils.
Bah ouais, mais vous dites je suis pas con-con. Bah alors faut pas dire ça.
Mais parce que... Non mais... Bon, alors toi t'es viré déjà, parce que ça suffit.
Bah je suis un peu con-con moi. Sheila, on part maintenant en 75. Nous sommes le 7 avril dans la chambre 41 de la clinique Spontini. Dans vos bras, Ludovic, vous devenez maman. Sur votre album À l'avenir, il y a cette chanson.
J'ai une petite âme blanche qui devance mes pas. Je ne la quitte jamais de l'œil.
Une petite âme blanche, alors je me trompe peut-être, mais cette petite âme blanche, est-ce que c'est l'âme de votre fils?
C'est l'âme de Ludo, mais Ludo, je lui ai déjà fait une sublime chanson qui s'appelait Cheval d'Amble. De toute façon, Ludo, il est là. Hein. Après, on ne perd pas la chair de sa chair, parce qu'un enfant, c'est au-delà de tout. Donc, il est là, il est... Voilà, après, vous ne pouvez pas le toucher, mais à partir de l'instant, vous savez, je crois à la réincarnation, je crois aux esprits, je crois aux entités, donc alors peut-être que c'est pour m'aider, mais non, moi j'y crois vraiment. Donc c'est la petite âme blanche, bien sûr. Il y a lui et il y a Françoise à laquelle je pense.
Françoise Hardy.
Ouais.
J'ai une petite âme blanche qui me sert de lumière, je lui fais tellement plus confiance qu'à moi. Faire confiance à quelqu'un qui n'est plus là, c'est possible?
Oui, parce que je pense qu'on reçoit des signaux quand on fait un peu attention, et je pense qu'on a des aides, des guides, des anges gardiens, des gens qui vous protègent, à commencer par vos parents, vos grands-parents... Si c'est le cas comme moi, un enfant, je pense qu'on n'est jamais seul de toute façon.
chez là des mères qu'on ne connaît pas qui ont perdu un enfant, il y en a. On parle plus souvent de celles, on parle plus souvent de celles qui sont connues. On en parle aujourd'hui avec vous, on en a parlé aussi dernièrement avec Lio qui a perdu son fils. Qu'est-ce qu'une mère a besoin d'entendre dans ces moments-là ?
Ah, ça dépend des mères. Moi personnellement, j'avais rien besoin d'entendre. Parce que nous, comme nous sommes des gens publics, évidemment, on se charge d'en parler. Vous savez, ce qui est difficile, c'est de faire un deuil. Déjà, faut arriver à le faire. Mais quand vous avez des journaux qui ressassent tout le temps la même chose, et comment, et quoi, il s'est passé quoi. C'est juste insupportable, parce que c'est vraiment la vérité déformée, très souvent, parce que pour vendre, faut en rajouter. Donc, moi, personnellement, j'ai surtout envie qu'on ne parle pas de lui. Moi, je sais qui il est, je sais comment ça s'est passé, ce que les gens ne savent pas, et je sais où sont les responsables ou pas. Donc, je préfère garder ça pour moi, parce que c'est la vie de Ludo et c'est la mienne.
Est-ce qu'on fait le deuil d'un enfant ?
Non.
Jamais ?
Non, je crois pas, mais moi, je veux pas faire le deuil, je veux qu'il soit là, donc il est là.
Chez là, on continue notre voyage. Vous êtes l'icône des yéyés, mais aussi la disco queen.
Quand même, ça met de bonne humeur. Hein.
Regardez, je danse sur la table. Alors ça, c'est Spacer, écrit pour vous par Nile Rodgers et le groupe Chic, carton mondial. Sheila, vous avez à cette époque un succès de dingue, mais en 1989, vous décidez de tout arrêter.
Il y a deux choses difficiles à dire dans la vie. C'est je t'aime et je pars. Sachez avant tout que je vous aime. Très fort.
Un peu plus de 35 ans plus tard et avec l'expérience, c'est plus difficile de dire je t'aime ou de dire je pars ? Vous avez fait un package, hein, vous avez dit je t'aime et je pars. Allez, hop, la totale.
Non, mais voilà, si j'ai un regret, par exemple, j'ai réalisé seulement à ce moment-là la place que j'avais dans la vie des gens. J'ai fait 12 jours l'Olympia. Pendant 12 jours, j'ai vu des gens pleurer. C'est-à-dire que mon but n'était pas évidemment de voir des salles entières et des milliers de gens pleurer. Moi, j'avais pas prévu ça, sincèrement. J'arrêtais pas de chanter complètement, j'arrêtais de faire du disque. Et je n'admettais pas, et je ne l'admets toujours pas d'ailleurs, qu'on puisse me dire que pour faire un album, il fallait que je fasse des maquettes et que je les présente et que peut-être on me donnerait la possibilité de sortir un disque. J'ai envoyé chier tout le monde, j'ai dit, c'est gentil, si vous n'avez pas compris qui je suis, c'est pas grave, je m'en vais.
Je vous ai interrompu parce que je vous demandais ce qui était le plus difficile, de dire je t'aime ou de dire je pars, et j'ai pas entendu votre réponse. Qu'est-ce qui est le plus difficile, dire je t'aime ou dire je pars ?
Ça dépend, pour moi, c'était de dire je pars. Parce que je t'aime, moi je le dis quand je chante,
vous
je dis tout
facilement.
Le temps aux gens je t'aime. Oui, parce qu'il faut le dire. Faut pas attendre qu'il soit mort pour dire je l'aime. Non, non, il faut dire de son vivant, moi quand je vois quelqu'un. Vous savez, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, je vais voir Marguerite avec Annie Girardot. Et à la sortie, il y avait en face, sur le trottoir d'en face, Lino Ventura avec sa femme. Moi, j'ai une admiration sans borne pour Lino Ventura que je n'avais jamais rencontré. Et j'étais avec quelqu'un, je lui dis, oh, il faut que j'aille lui dire je l'aime. Et ben, j'ai traversé la rue. J'étais le voir, je dis bonjour monsieur, je m'excuse, je me présente, je m'appelle Sheila, je voulais juste vous dire que je vous aime. Alors, il m'a pris pour
génial.
Une barge. Hein.
Bon, non.
Allez. Mais je m'en fous, je lui ai dit. Mais moi, je pense qu'il faut le dire. Il faut dire aux gens qu'on
alors,
les aime.
On met de côté le public, on met de côté les idoles. En amour, vous croyez qu'on peut quitter quelqu'un qu'on aime ?
Ben, pourquoi voulez-vous qu'on le quitte si on l'aime ?
Je sais pas.
Oh ben non, mais ça c'est du masochiste.
C'est débile ma question.
Ben c'est du masochiste, je suis désolée.
Vous avez le droit de dire que ma question est idiote. Hein.
Alors je vais pas le dire, mais je pense que c'est quand même un peu tarabiscoté, je dirais.
Ouais, c'est maso quoi. C'est maso.
Ouais, c'est un peu maso. Après, c'est un jeu. Tu peux très bien dire je te quitte pour mieux revenir.
Pour être retenu.
Mais voilà, ou alors pour
non,
dire,
ne
mais
pars pas.
Non, ne pars pas, je t'en supplie. Après, faut faire gaffe parce qu'il y en a qui te retiennent pas du tout.
Ouais.
Et là, t'es dans la panade.
Vaut mieux se barrer.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Ça nous fait gagner du temps.
Mais voilà, c'est ça, bon d'accord.
Il y a eu donc un break en 1989, retour à la musique en 1998. « Nous sommes à l'Olympia, concert à guichet fermé. Suivront 8 albums, dernière en date à l'avenir. Ce comeback, c'est l'histoire d'un pari avec votre deuxième mari qui vous dit « tu vas rechanter ». Vous lui répondez « ok » à une condition, refaire de la scène. Vous vous tapez dans la main. Depuis, vous vivez tout ça comme du bonus, mais encore plus que ce pari. Il y a un événement qui fait que tout ce que vous vivez, c'est du bonus. Justement, c'est l'expérience de mort imminente. Suite à une septicémie, vous avez été hospitalisé. Entre la vie et la mort, vous planez au-dessus de vous, vous voyez pleine de tuyaux sur le lit de l'hosto. Qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Ensuite, c'est ce que tout le monde raconte. Hein. On voyait un grand tunnel de lumière, on arrive. Bon, moi, je suis arrivé dans un endroit où j'ai revu des gens qui ont été importants dans ma vie. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est tellement bon, là-haut. C'est tellement calme, tellement doux, parce que vous venez d'un corps de souffrance. Parce que, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un corps en souffrance. Vous montez, et vous montez,
et vous là, êtes bien.
Oui, c'est le calme, c'est tout doux,
mais vous êtes...
c'est beau, c'est... Mais on se voit.
Vous avez l'impression que vous êtes passé de l'autre côté ?
Je n'ai pas l'impression, je suis passé de l'autre côté. Et après, quand on est de l'autre côté, et qu'on est tellement bien, que c'est tellement bon, et que tout... comme ça.
Bah alors, on reste.
Voilà. Et là, on vous dit, non, c'est pas maintenant. Mais comment ça va maintenant ?
Qui on vous dit ?
Ah bah. Alors là, excusez-moi, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé qui me l'a dit. Hein. Mais on vous dit, non, c'est pas maintenant, faut redescendre. Mais comment faut redescendre ? Je peux pas rentrer dans des trucs que j'ai pas vus.
Ouais,
je peux pas vous raconter
sûr.
N'importe quoi. Mais vous savez, ou on vous dit, j'en sais rien, qu'il faut redescendre. Et donc, vous redescendez. Moi, je me rappelle très bien, on m'a dit... Non, tu peux pas, c'est pas le moment, faut que tu redescendes. J'ai dit, non, tu veux pas redescendre, je reste là et tout. Non. Tu redescends parce que t'as des trucs à faire. Et ça, je m'en rappellerai toujours. Et pendant des années, j'ai cherché, mais pourquoi je suis redescendue ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Alors, bien sûr, j'avais un enfant déjà, ça commence par ça. J'ai un enfant à m'occuper puisque je suis seule à l'élever. Mais qu'est-ce que j'ai à faire ?
Rassembler les gens.
Voilà. Moi, je pense que quelque part, c'est très prétentieux, mais non. Je suis capable de rassembler toutes sortes de gens, tous milieux confondus, religions confondues, âges confondus. On s'en fout pendant 2 heures. Ils sont en basket, ils chantent, ils dansent, ils se lèvent, on fait la fête. Et moi, pour moi, c'est mon bonheur. Moi, quand je fais une dédicace après un spectacle et qu'on me dit oh, « c'est tellement bien, vous devriez être remboursé par la Sécurité sociale », eh ben, je vous dis sincèrement, j'ai gagné ma vie.
Ouais.
Voilà.
J'insiste sur l'expérience de mort imminente parce que je trouve le sujet passionnant. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez vus qui étaient plus là ou pas du tout ? C'est trop embrouillé.
Ah non, moi j'ai vu. Non, moi je sais qui j'ai vu.
Sais qui vous avez vu.
Ah bah qui alors ?
Au bout du tunnel, dans une lumière blanche, il y a un certain docteur Guinbert, non ?
Guinbert, absolument. Et Guinbert, c'est mon maître absolu depuis les années 60. Je l'ai connu, j'avais 16 ans. Je l'ai retrouvé dans les années 70 et il ne m'a jamais quitté. Nous, on a fait de la télépathie, on a fait plein de choses. C'est mon maître.
Est-ce que ça vous rassure d'avoir vécu cette expérience ? Est-ce que ça vous rassure quant à la mort ?
Vous savez, pour moi, la mort, c'est un passage. Hein. On ne meurt pas, puisqu'on revient. Voilà. On fait des étapes différentes. On monte des marches, on monte un escalier, jusqu'à arriver sur le palier, le joli palier. Bon, ça prend des années, ça prend des vies, ça prend des expériences. Mais vous savez ce que je trouve intéressant ? Si vous écoutez bien l'intérieur de vous, on a des mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires viennent de toutes vos vies passées. Et vous donne des conseils ou des renseignements sur ce qui vous va bien. Et nous, on est des cartésiens, on est élevés comme des cartésiens. Donc, on ne fait pas attention, on n'entend pas, on n'a pas le temps. Moi, on m'a dit, je sentais qu'il fallait que je sculpte. Pourquoi je vais sculpter ? Il fallait que je sculpte. Bon. Puis après, il y a un moment, moi, je l'ai fait. Mais il y a des gens qui disent, non, mais à mon âge. Non, mais ça, c'est une connerie monumentale. C'est pas, il n'y a pas de à mon âge. Non.
Viens, mon petit chat, que je te fasse un câlin.
C'est lui, ça. Ça, c'est lui.
Docteur Guinbert.
Ouais. Il venait, moi, quand je le voyais, c'était un kiné à la base, hein. Mais c'était un monsieur qui avait un don absolument extraordinaire. Quand je l'ai revu, il m'a dit, mais tu sais pourquoi tu es là? Mon petit chat, parce que j'étais son petit chat. Tu as quelqu'un accroché dans ton dos. Donc, ça fait bizarre quand même, tu vois. Et voilà. Donc, il m'a aidé, il m'a soulagé. Et c'est vrai que, à chaque fois, avant de partir, quand il m'avait fait mes séances et tout, il me dit, viens, je vais te faire un câlin. Et c'est cet homme qui avait une énergie, une puissance absolument incroyable. Quand tu sortais de chez lui, t'avais l'aura qui faisait 2 mètres de chaque côté, quoi. Mais ce sont des maîtres, ce sont des gens qui sont intouchables et qui sont là au-dessus de nous et qui
éternel.
Nous aident.
Oui. Chez là, on termine ce voyage avec une artiste que vous aimez beaucoup.
Ah ouais. La grande.
The Best de Tina Turner, un hymne à la persévérance et à la célébration de la vie. Je ne céderai jamais à la vieillesse avant de devenir vieille. C'est ce qu'a écrit Tina Turner alors qu'elle avait 79 ans.
Ben oui, ben c'est pour ça que
ça colle bien. Hein,
non mais ça va très
ça
bien.
Ça colle
non,
bien avec vous.
Elle, ça, moi, voilà, elle, c'est hormis le talent, ce qu'elle est, voilà, c'est mais c'est une boule d'énergie. Moi, c'est ce qui me rapproche.
Pas vous.
C'est ce qui me rapproche d'elle, j'allais dire, si tu bah me laisses finir ma phrase.
Non, mais je crois que vous êtes pressé, c'est pour ça on vous attend. Là, je vois, ça s'affole dans le.
Mais
en
non,
régie.
Mais non. Moi, j'ai fini mon histoire. Et donc, si tu veux, moi, quand Tina est partie, moi, j'ai eu un choc énorme, alors que je la connaissais pas et que. Parce que j'ai dit, mais c'est pas possible, elle a pas le droit. Donc, comme je suis barjo, j'ai appelé mon équipe et j'ai dit, les garçons, préparez-vous, parce que c'est pas possible. Donc, j'ai décidé, on a des projets. Préparez-vous, on va fêter les 70 ans de carrière. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais bon, il faut bien que je me fixe des buts, donc c'est celui-là.
Ah, vous avez raison. Merci, Sheila.
De rien, très vite. Et restez
bonheur.
Comme vous êtes.
Hein. Ah bah vous
et
aussi.
Gardez votre pull vert.
Ah, mon pull vert couleur stabilo, oui, orange et rose fluo.
J'adore. Allez, bonne journée.
Merci, Sheila.
Bye bye.
Sheila, vous la retrouvez donc sur scène le 18 novembre au Dôme de Paris. Il y a des dates aussi à Bruxelles, Charleroi. Si vous êtes dans le Nord, il y a Maubeuge, Lille et sinon Toulouse, Antibes, Bordeaux. Toutes les dates de la tournée 8.0 sur la page de l'émission Dans le Rétro. À l'avenir, c'est le 28e album. C'est le titre Les Amoureux, une chanson belle et tragique. C'est Nova, une ritournelle entêtante. C'est un morceau électrique quand elle chante et Dieu dans tout ça. Ce sont 12 titres enregistrés avec le cœur, avec les mots aussi de Pierre-Yves Lebert, Amaury Salmon et Rachel Kahn. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Prenez soin de vous, salut.